espoir. Une dernière annonce, juste pour rappeler, juste vous informer qu'il y a une rencontre de l'éducation chrétienne le samedi 1er avril, juste pouvez le noter, le samedi 1er avril à partir de 9h30, une rencontre de l'éducation chrétienne, le déjeuner est fourni. Vous contactez Carole ou Sylvie avant le 30 mars, s'il vous plaît. Avant le 30 mars, contactez Carole et Sylvie afin de confirmer votre présence. Voilà. Et on annonce aussi qu'à partir d'aujourd'hui, tous les enfants de 3 ans et plus, dès qu'ils arrivent, peuvent descendre en bas afin de laisser plus de place. Ils vont être bénis en bas et nous, on va être bénis en haut. Gloire à Dieu. Amen. J'invite l'homme de Dieu à nous partager la parole de Dieu.
Tu as eu assez d'annonces?
Oui.
Vous en voulez encore? Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Vous avez reçu ce matin un bulletin, et dans ce bulletin, vous pourrez suivre la prédication aussi. Vous avez les textes qui sont annoncés dans ce bulletin. C'est un avion qui passe. Si vous n'avez pas de stylo, il y aura dans ce bulletin, il y a des blancs aussi où il va falloir écrire. Si vous n'avez pas de stylo pour écrire, levez la main, on se fera un plaisir de vous en prêter un, ou même de vous le donner. Il y a des mains qui se lèvent, il y a un préposé à l'accueil qui vont vous donner un stylo. Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Je vous encourage vivement. Est-ce que ça vous a plu, l'espoir, là? Vous avez vu que les 5 premières minutes... Rien qu'avec ces 5 premières minutes, on peut avoir 3 ou 4 heures de discussion. Hein? Imaginez dans un groupe, vous avez regardé ces 5 premières minutes, puis après vous parlez du plan éternel de Dieu, de la valeur des Écritures, des prophéties qui se sont accomplies, de l'importance de ce texte que nous avons, qu'on appelle la Bible. Et donc, le principe, c'est de projeter juste quelques minutes, c'est un 4-5 minutes de film qui présente... la Bible depuis la création jusqu'au jour de la Pentecôte, et puis voir les grands thèmes bibliques, et surtout d'avoir un temps de partage, de communion, d'échange, de discussion, et puis pouvoir aussi témoigner de notre foi auprès de tous ceux que nous côtoyons. Si vous avez fait partie d'un groupe, je vous invite à rembarquer. Les groupes, cette fois-ci, auront lieu tous les 15 jours, aux 2 semaines. Ce n'est pas toutes les semaines, ce sera aux 2 semaines, qu'il y aura un groupe. Si quelqu'un dit, ben moi j'avais pas de groupe chez moi, j'aimerais bien ouvrir ma maison, eh bien faites-le. Je vous encourage à ouvrir vos maisons et à faire un nouveau groupe chez vous. La personne intéressée? Je vous laisse y réfléchir. Vous avez trouvé Hébreux chapitre 12, verset 1er. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Nous avons vu la dernière fois que nous avions un voyage spirituel, et qu'il peut y avoir des hauts, et qu'il peut y avoir des bas. S'il fallait poser la question ce matin en disant, imaginez, au temps de Jésus, si vous pouviez venir vivre, prendre la place d'un des disciples, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires pour prendre la place de Judas, mais peut-être d'un autre. Mais bon, je veux bien prendre la place de Jean, je veux bien prendre la place de Pierre, de Jacques, et être avec Jésus. J'aimerais tellement être là quand... Vous allez répondre quoi? Quelqu'un dira, moi j'aimerais tellement être là quand Jésus est né, voir l'enfant roi et voir les mages venir apporter des trésors, les bergers venir parler de ce qu'ils ont entendu des anges. D'autres diront, moi j'aimerais être là le jour où Jésus a été baptisé, qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Quelqu'un dira, moi j'aimerais être là quand Jésus fait sortir Lazare de la mort. Moi, j'aimerais être là quand... Vous avez votre réponse? Vous allez dire, oui, ben un Français, il dira, moi, j'aimerais être là quand l'eau a été changée en vin. Bon, c'est français, ça. Certains... Et pensez à cet épisode de la transfiguration, on y faisait référence dimanche passé, où Jésus est sur cette montagne. Et là, il y a une métamorphose, son visage est éblouissant. La gloire de Dieu est sur lui. Et voilà qu'une nuée là, une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et voilà que Pierre dit « Seigneur, on est tellement bien ici, restons ici. » Moïse est là, Élie est là, et c'est vraiment un moment extraordinaire. C'est un sommet, c'est un temps époustouflant dans la gloire de Dieu. Et Pierre veut rester dans cette présence. Et Jésus leur dit, il faut descendre maintenant. Il faut redescendre dans la vallée. Parce que notre vie, notre combat se fait dans la vallée. Quand Moïse était sur la montagne et qu'il avait les mains élevées vers le ciel, c'était dans la vallée que Josué était vainqueur et qui pouvait repousser l'adversaire et Amalek. Nous avons devant nous tout un voyage. On dit en québécois, il me semble, « j'ai mon voyage ». Non ? Nous avons peut-être aussi devant nous toute une épreuve, l'épreuve qui est devant nous, nos voyages spirituels. Et la question à laquelle on aimerait répondre ce matin, c'est comment puis-je maintenir ma vitesse de croisière spirituelle? Comment l'élan que l'on a eu durant ces 40 jours, l'impulsion qu'il y a eu, ne pas la perdre, mais garder son élan, garder sa vitesse de croisière? Est-ce que vous avez remarqué que Hébreux 12, je ne sais pas si quelqu'un l'a remarqué ce matin, que Hébreux 12, c'est juste après Hébreux 11? Vous avez fait attention à ça? Hébreux 11, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, Hébreux 11, on connaît. C'est les héros de la foi. C'est voir comment c'est par la foi qu'Abraham, que Moïse, que Noé, c'est par la foi que tous ces hommes ont fait des choses extraordinaires. Et après avoir évoqué l'épopée de tous ces hommes de foi, voilà que Hébreux 12 commence. Nous qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, alors qu'il y a tous ces gens qui, par leur vie, par leur histoire, rendent témoignage, eh bien nous allons nous puiser nos forces, pour reprendre l'expression qui est marquée sur le bulletin, je vais puiser des forces chez ceux qui m'ont, et là vous pouvez prendre votre stylo, si vous ne l'avez pas, relevez la main, je vais puiser des forces chez ceux qui m'ont précédé. Comprenez que ceux qui nous ont précédés sont là comme des modèles. L'apôtre Paul dit aux Romains, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Ce serait dommage de faire plusieurs fois la même... Je sais qu'aux États-Unis, il y a toujours un tas de procès pour toutes sortes d'affaires. Il me semble que pour un micro-ondes, une fois, un enfant avait mis un chat dans le micro-ondes. Et il y a eu un procès après parce que ce n'était pas marqué sur le mode d'emploi. Alors maintenant, c'est marqué « Ne pas mettre de chat dans le micro-ondes ». Il y a eu une erreur une fois. Maintenant, on le note pour ne pas faire deux fois la même erreur. Vous comprenez? Et dans la Bible, il est question de victoire, de succès, de triomphe. Mais il est aussi question des fois d'échec, de combat, de difficulté. Et ces choses ont été inscrites pour nous servir d'exemple, afin que l'on ne fasse pas la même chose en ce qui concerne les mauvais exemples, et afin qu'on imite les bons exemples. Et de la même manière, nous aussi, allons chercher dans la Bible nos modèles. Jésus est notre modèle suprême, évidemment. Mais allons chercher tous ces exemples d'hommes de foi et dire « je veux vivre, je veux être ». Il me semble que les jeunes veulent être comme des Néhémies dans leur génération. J'ai entendu parler de ça, non? Non? Ils ne sont pas l'air convaincus, là. Levons-nous et bâtissons, c'est la devise de la jeunesse. Être un Josué, être un Moïse, être un homme de Dieu, un homme de foi. pour maintenir notre croissance spirituelle, pour maintenir notre vitesse de croisière spirituelle, nous avons besoin d'aller chercher des forces chez ceux qui nous ont précédés. Un enfant qui veut rien entendre de ses parents va faire bien des erreurs. Et celui qui est sage écoute le conseil des anciens. Et les anciens disent Amen. Et ils regardent les jeunes en disant « T'aurais dû m'écouter !» Comprenez les jeunes que les anciens ont fait des erreurs aussi quand ils étaient jeunes. Même si aujourd'hui on les voit là, avec une auréole sur la tête en disant « Mais ah, avec les cheveux blancs, là, c'est une couronne de gloire !» Quand ils étaient jeunes, il y a aussi eu quelques erreurs, quelques problèmes, quelques difficultés. Et aujourd'hui, certains, puis c'est comme ça que l'on fonctionne, on dit, mais le mal que j'ai pu avoir parce que je n'avais pas compris telle et telle affaire, je ne veux pas que d'autres aient la même douleur et la même souffrance. Je veux pouvoir les enseigner, les instruire, les conduire, les conseiller. Et en ce qui nous concerne, on a tout à gagner, à aller puiser des forces chez ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont déjà passés par là. Quand on va quelque part, et c'est la toute première fois que l'on va quelque part, on est insécure, on dit « je ne suis jamais allé là », alors on appelle quelqu'un qui est déjà passé par là. En disant « explique-moi comment ça fonctionne ». C'est vrai pour tout, c'est vrai pour tous les domaines de notre vie. Tellement rassurant de dire « le chemin que j'emprunte, quelqu'un l'a déjà emprunté, quelqu'un est déjà passé par là et il va me conseiller, il va m'aider à passer au travers ». J'aimerais vraiment vous encourager à répondre à cette deuxième question qui est notée sur votre bulletin. Quelle personne de foi et de piété peut renforcer votre chemin? On doit voir cette question. Quelle personne de foi et de piété peut renforcer mon chemin? Et là, je ne peux pas répondre à votre place, mais je vous invite à réfléchir et peut-être à le noter en disant, voyons voir dans mon entourage, quelle personne pourrait être là pour m'aider à renforcer mon chemin et pouvoir passer au travers, peut-être, des épreuves qui sont devant nous. Comment maintenir notre vitesse de croisière? Premièrement, en puisant des forces chez ceux qui nous ont précédés. Deuxièmement, je vais laisser ce qui me fait trébucher. Je vais laisser ce qui me fait trébucher. C'est ce qu'on lit dans Hébreux 12. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement. Je vais laisser ce qui me fait trébucher. Premièrement, je vais me débarrasser de ce qui n'est pas saint, à savoir le péché. Se débarrasser de ce qui nous fait trébucher, de ce qui nous empêche d'avancer. Vous savez, des fois, il y en a qui ont du mal à avancer en disant « c'est difficile d'avancer, mais parce que tu es trop chargé ». Je ne sais pas si vous avez essayé de faire la course avec deux valises. Il y a des dames qui s'entraînent pour faire la course dans l'aéroport de Montréal et de Paris avec deux valises. « On va rater l'avion, dépêchons-nous !» Courir avec deux valises, on va moins vite que courir sans valise. C'est bien des valises, hein? Oui. L'image est tellement simple. On raconte l'histoire d'un fou qui marchait toujours avec une grosse pierre. On pose la question, mais pourquoi est-ce que tu as toujours une grosse pierre? Mais comme ça, s'il y a un lion qui vient, je lâche la pierre et je cours plus vite. C'est une façon de voir. Mais malheureusement, dans la vie chrétienne, beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça. À marcher leur vie chrétienne avec des fardeaux, avec des choses qui sont lourdes et pesantes, en disant « j'ai du mal à avancer, débarrasse-toi de ce qui n'est pas saint, du péché qui te retient. » Une montgolfière monte dans les airs en se déchargeant, en se délestant de ce qu'il y a comme poids à l'intérieur. De la même manière dans notre vie spirituelle, si nous voulons grandir, si nous voulons continuer d'avancer, eh bien, n'avançons pas avec un boulet attaché au pied, avec une chaîne et un boulet comme les bagnards d'il y a quelques années. Mais débarrassons-nous donc de ce qui n'est pas saint, de ce qui est péché. Et peut-être quelqu'un dira ce matin, mais j'aimerais bien me débarrasser du péché qui est en moi, de ce qui me fait honte, de ce qui... Mais c'est plus fort que moi et je n'y arrive pas. La bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que Jésus a triomphé du péché. Et qu'en lui, il y a la liberté. Qu'en lui, il y a la libération. Qu'en lui, il y a la victoire, la mort sur le péché. Comprenez bien que de nous-mêmes, oui, c'est difficile, voire même impossible, de se défaire de mauvaises habitudes. Mais avec lui, c'est possible. Cette semaine, on visitait avec Pasteur Romaric une dame qui vient dans cette église depuis les 40 jours. Ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines qu'elle vient dans cette église. Et elle nous disait avec joie qu'elle est venue dans cette église, elle est venue 3-4 fois, c'est ça? Elle vient dans cette église et dire, mais je sens la présence de Dieu, je suis heureuse depuis que je suis là. Et ça fait 15 jours que je ne bois plus. Alors qu'elle était prise par la boisson. Voyez-vous, Jésus libère. Et on prie pour qu'elle persévère et que ça continue. Hein. Je regarde si je la vois ce matin. Non, elle sera peut-être là ce soir. Comprenez que il y a des choses par nous-mêmes, c'est quasiment impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Bien des gens ici diront, moi je voulais arrêter de fumer, j'ai tout essayé, j'y arrivais pas. Mais Dieu m'a donné la force. Et avec lui, ça a été possible. J'aimerais vous encourager ce matin et dire, il est possible de se débarrasser une fois pour toutes de ce qui est mauvais, de ce qui est péché dans votre vie. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints. Hey, c'est bon ça, être saint. Il y a une sainte à côté de vous? Il y a un saint à côté de vous? En tout cas, Dieu veut que... Vous pouvez dire à votre voisin, hey, Dieu veut que tu sois saint, hein? Il veut que tu sois sainte. Moi, je suis marié à une très sainte femme. Alléluia. Mais il y a un choix à faire. Je décide de me débarrasser de ce qui est mauvais. Si je veux continuer d'avancer et d'avancer sans peine, débarrasser de tout fardeau. Deuxièmement, se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Il y a des choses, des fois, dans la vie qui ne sont pas forcément mauvaises, mais ce n'est pas nécessaire. Comprenez qu'il y a des choses qui mangent de notre temps, qui ne sont pas nécessaires. On peut vivre sans. Et ce qui est grave, et ce qui est dommage, c'est quand ce qui n'est pas nécessaire vient prendre la place de ce qui est nécessaire. Vous me suivez? Ce qui est nécessaire pour un homme, c'est de manger. Et c'est triste quand l'homme rentre à la maison et qu'il n'y a pas de cuisine de prête parce que la dame fait quelque chose qui n'est pas nécessaire. Je ne sais pas si l'exemple est bon. Non, c'est pas la maison, là. Je parlais de quelqu'un d'autre. Hein. Comprenez que... Je donne un exemple, mais ça n'a rien à voir avec ma femme, rassurez-vous. Prenons l'exemple d'une dame qui passerait sa journée à faire des mots de croisée. C'est pas ma femme, ça. Faire des mots de croisée, c'est bien, c'est divertissant, mais c'est pas nécessaire. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous prendre du temps, mais si ça vient nous empêcher de faire ce qui est important et nécessaire. Comprenez que dans la vie chrétienne, il y a des choses qui sont nécessaires. La communion avec Dieu, la présence de Dieu, la lecture de sa parole. Et si vous vous laissez distraire, perturber par toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessaires, ça va venir empêcher ce qui est nécessaire de se manifester dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? Ça peut être peut-être un peu de télé en moins. Ça peut être un peu de ceci en moins, un peu de cela en moins. Et de dire, Seigneur, je ne veux pas que les choses qui ne sont pas nécessaires dans ma vie, qui ne sont pas indispensables et je peux vivre sans, je ne veux pas que ça vienne prendre la place de ce qui est tellement important. Et je ne peux pas vivre sans ta présence, ta communion à mes côtés. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Comprenez qu'un soldat qui va à la guerre, il prend ce qui est nécessaire. Et dans son paquetage, il y a ce qui est nécessaire pour sa mission. Mais le soldat qui part à la guerre va oublier son sèche-cheveux, va oublier sa console Nintendo et va oublier toutes ces affaires-là. Vous me suivez? Parce qu'il a une autre mission. Troisièmement, je vais devoir choisir de persévérer jusqu'à ce que je traverse la ligne d'arrivée. J'ai oublié de vous poser la question avant, ça. Si je veux bien finir, je dois me débarrasser de. Et puis là, il y a un vide et je ne peux pas le remplir à votre place. Mais j'aimerais vous inviter à vous poser cette question, chacun pour votre part. Qu'est-ce qui dans votre vie vous freine, vous bloque? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas sain? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire? Et de dire que cette chose, aujourd'hui, puisse disparaître. Troisièmement, je vais devoir choisir de persévérer jusqu'à ce que je traverse la ligne d'arrivée. Nous sommes là comme dans une course. Mais comprenez que cette course, cette épreuve, ce n'est pas le 100 mètres. Ce serait plutôt le marathon. Ce n'est pas le même genre de course. Quand on court pour faire 100 mètres ou quand on court pour faire un marathon, ce n'est pas la même chose. La vie chrétienne, ce n'est pas une course d'éclairs. C'est une course de longue haleine. C'est un long trajet où il faut de la persévérance, où il faut de l'endurance. Et c'est important de choisir, de persévérer et vous dire ce matin, ne lâche pas. L'apôtre Paul est passé par toutes sortes de luttes, de combats, de difficultés. Il parle de naufrages, il parle de coups de fouet, il parle de voleurs, il parle de lapidation, il parle de toutes sortes d'affaires. Mais il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Je suis allé jusqu'au bout, décidé de persévérer. Il y avait un jeune qui voulait faire du basket dans son école secondaire. J'en ai parlé il y a quelque temps. Et le coach ne voulait pas le prendre dans l'équipe de basket. Non, pas toi, tu n'es pas assez bon. Ah, il a persévéré quand même. Il a été déçu de ne pas avoir été pris dans l'équipe de basket. Il a persévéré encore. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Michael Jordan. On a retrouvé dans les archives des studios MGM. MGM, là, les studios de cinéma à Hollywood. Il y a de cela quelques années, les plus anciens s'en souviendront. Il y a marqué une petite fiche, il y avait marqué Fred Astaire. Alors c'était les premiers bouts d'essai de Fred Astaire. Il était venu faire juste un essai pour voir s'il pouvait faire quelque chose. Fred Astaire, 2 points, pas un bon acteur, légèrement chauve, c'est un peu dansé. C'est ce qu'il y avait marqué sur sa fiche. Bon, les jeunes ne connaissent pas Fred Astaire, hein, mais c'est devenu une star après. Hein. C'est lui qui chante sous la pluie, non? C'est ça? Bon. Les parents d'Enrico Caruso, c'est un chanteur, ça. C'est ça? Caruso, ah bon, pardon. Ont cru l'instituteur de l'enfant qui disait « Pas de voix du tout, il ne sait vraiment pas chanter. » Walt Disney a été renvoyé par un éditeur de journal parce qu'il manquait d'idées. Henry Ford, on ne dit pas Ford, pardon, Ford, comment Ford. Bon, bref, Henry. Henry a échoué et fut ruiné 5 fois avant de réussir. Il est passé par 5 faillites. Beethoven, qui avait du mal à manipuler son violon, son professeur a fini par lui dire « Tu n'as aucune chance en tant que compositeur. » Albert Einstein, qui était si mauvais élève à l'école, à part les notes en mathématiques. Les enseignants ont conseillé à ses parents de le retirer de l'école parce qu'il ne deviendrait jamais rien. Comprenez que il y a le départ, mais il y a l'arrivée. Mais que ça marche dans l'autre sens aussi. Que des fois, on peut avoir un beau départ et une mauvaise arrivée. On peut avoir un départ époustouflant, un départ où on dit, mais c'est formidable, quel homme de Dieu, quel jeune homme, quelle jeune fille. C'est formidable de voir le zèle qu'il y a. Et malheureusement, on connaît trop de cas de gens qui ont bien démarré et qui ne sont pas allés jusqu'au bout de la course. Il y a des courses où il y a des chutes. Et les gens ne vont pas au bout de la course. On a eu les Jeux Olympiques d'hiver, là. Il y a quelques années, je me souviens bien, il y a l'équipe de Jamaïque qui avait envoyé une équipe de bobsleigh. De bobsleigh. Enfin bref, le machin avec la luge. Et ils ont fait la course. Mais ils se sont renversés, ils ne sont pas arrivés au bout, ils ont descendu de leur bob sled. Ils l'ont porté et c'est à pied qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, ils sont allés jusqu'au bout. Voyez-vous, on peut avoir des beaux départs. Et peut-être que parmi nous, certains ont eu un beau départ. Et puis il y a eu quelque chose qui est venu comme tout arrêté en cours de route. Ne lâche pas, persévère. Je dois choisir de persévérer. Regardez 1 Corinthiens 15, 58. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Persévérez. Ne pas vous laisser décourager par le moindre problème. Ne pas vous laisser ébranler par le moindre obstacle, mais de dire, je sais en qui j'ai cru et je continuerai, envers et contre tout. Quand bien même le vent se lève, quand bien même il y aurait de la tempête, quand bien même il y aurait de la persécution envers les chrétiens dans ce pays, comme ça se produit, on l'a vu il y a quelque temps, dans bien des pays du monde encore, quand bien même il y aurait toutes sortes de difficultés et d'épreuves, quand bien même je serais rejeté par ma famille, ou que sais-je encore, je persévérerai. Parce que ce qui nous motive, ce n'est pas le présent, c'est la vie de Dieu en nous. Je persévère. Et durant ces 40 jours, certaines choses ont été initiées peut-être, ou redécouvertes. Et j'aimerais vous inviter à ne pas lâcher. Et à persévérer. Et la question que je vous pose, c'est une question personnelle. À la fin de ces 40 jours, un seul but. Je sais que Dieu veut que je continue. Et je vous laisse remplir là-dessus. Continuez. Peut-être quelqu'un était à la veille de lâcher. De lâcher un service, de lâcher un ministère, de lâcher quelque chose. Dieu veut que tu continues. Que tu persévères. Que tu ailles jusqu'au bout. Que tu ne sois pas découragé par les échecs, par les obstacles, par les problèmes et les difficultés, mais que tu persévères jusqu'au bout, jusqu'à voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quatrièmement, je vais me concentrer sur Jésus. C'est ce qu'on lit dans ce texte. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Se concentrer sur Jésus. Et comprenez bien que ce qui nuit la concentration, c'est la vitesse. On est dans un monde à haute vitesse. 5 mégabits par seconde. Mégabytes par seconde, ça. La haute vitesse, tout doit aller vite. Le train avance à 320 km heure. TGV, train de grande vitesse en France. Où les avions avancent à 1100 km heure. 1100 km par heure. Et encore, le Concorde est plus en service. Où on est dans un monde où tout va vite. On veut quelque chose pour tout de suite. Il faut que ce soit, même la nourriture, il faut qu'elle soit fast. Fast food. Il faut de la livraison rapide. On veut tout pour tout de suite, pour maintenant. Et on veut aller tellement vite que ça ne marche pas comme ça. La concentration nécessite de prendre du temps. Quand vous prenez un athlète, là, on a eu les Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps, vous prenez dans n'importe quelle épreuve, et il doit se concentrer sur ce qu'il est, ou sur ce qu'elle est en train de faire, il va prendre du temps pour se concentrer, pour se préparer, et pour pouvoir faire ce qu'il a à faire d'une manière parfaite. De la même manière, en ce qui concerne la vie chrétienne, nous avons besoin de nous concentrer, d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Pas de jeter un coup d'œil à Jésus de temps en temps. Pas de dire, moi, Jésus, je vais y penser de temps en temps, une fois par semaine, le dimanche matin. Avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est vraiment dire, mais tu es tout pour moi. Aussi bien le dimanche matin, que le dimanche soir, que le lundi matin, 24 heures sur 24, si je peux dire ainsi. Être concentré. Ce soit là notre préoccupation première. Et de dire, c'est là le sens de ma vie. On a vu durant ces 40 jours qu'il y avait 5 objectifs. Je sais que les francs nous empêchent de lire un petit peu les papiers qui sont là. Mais c'était l'adoration, c'était la communion, c'était le discipolat, le ministère, l'évangélisation. Et tout ça, c'est autour d'une personne, Jésus. Et c'est important de rester concentré. Et si vous venez, enfin vous êtes venu là, puisque vous êtes là ce matin, à l'église, que ce soit pour Jésus. Ne dites pas, moi je viens à l'église parce que je ne sais pas où aller, moi je viens à l'église pour trouver des amis, tant mieux si vous venez pour toutes ces raisons-là. J'aimerais vous inviter à vous concentrer et de dire, c'est Jésus qu'on cherche. C'est sa présence, c'est lui qui nous conduit, qui nous dirige. Regardez Philippiens 3:8. Je regarde toutes ces choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. L'apôtre Paul peut dire tout le reste n'a aucune valeur à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et qu'on puisse nous aussi dire, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, c'est ça qui est excellent dans ma vie. Et je ne veux rien d'autre. Et là encore, une question personnelle, et je vous laisse y répondre. Afin de rester résolument concentré, pendant le reste de l'année 2006, je vais. Qu'allez-vous faire pour rester concentré durant le reste de cette année? Est-ce que vous allez prendre la résolution de passer plus de temps dans la présence de Dieu, de consacrer un temps matinal en disant « je veux prendre du temps dans sa présence et rester concentré, je veux prendre du temps dans la méditation, dans la lecture de la Bible, je veux prendre du temps dans la présence, la communion fraternelle avec mes frères et mes sœurs, prendre la décision de participer à un groupe de maison et là vraiment rester concentré, que ce soit pas juste le dimanche, mais même en milieu de semaine, là, dire « mais hé, Jésus, c'est le centre de ma vie ». Cinquièmement, et dernier point, pour maintenir notre vitesse de croisière spirituelle, je vais supporter la souffrance pour voir le sourire. Le sourire, pourquoi? Il est dit dans le texte, il avait en vue la joie qui lui était réservée. Jésus est allé jusqu'à endurer la mort de la croix. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. De la même manière, il est dit que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Et il a supporté toute l'ignominie. De la même manière, nous aussi, quand nous considérons ce que Dieu veut nous donner, c'est motivant. Et ça nous permet d'endurer toutes sortes d'affaires. Quand on sait pourquoi on le fait. Quand un athlète endure la souffrance de l'entraînement, il sait qu'il le fait parce qu'il a en vue une médaille d'or. Quand un soldat endure des conditions difficiles, qu'il dort à même la neige ou je ne sais quoi encore, il sait qu'il y a une victoire, qu'il y a une bataille qui est décisive. De la même manière, si nous avons en vue la victoire, si nous avons en vue l'objectif, la présence de Dieu, si nous avons en vue ce que Dieu a à nous donner, mais ça va nous aider à passer bien au travers des épreuves et nous permettre de supporter et nous permettre d'endurer la souffrance. Non ? Généralement, les hommes disent que les femmes endurent moins la souffrance que les hommes. Elles sont moins tough. Non ? C'est l'image qu'on a dans les clichés. Mais si on pense à l'accouchement et aux douleurs de l'enfantement, et je m'y connais, pourquoi une femme endure les douleurs de l'accouchement? Parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Amen. Mais si elle devait souffrir les mêmes douleurs pour rien, là, elle dirait, non, oublie ça. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pareil dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul même parle de douleur de l'enfantement en parlant d'église, en parlant d'âmes qui sont enfantées. Et de la même manière, dans notre vie chrétienne, il y a bien des choses qu'on va être capable de supporter. Il y a des choses qu'on va être capable d'endurer parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Il y a des jeunes qui sont capables d'endurer d'avoir faim, puisqu'ils jeûnent, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de bon qui en résulte, qui en découle. De la même manière dans notre vie, portez les regards sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu a pour vous. Regardez dans Philippiens 3,14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours vers le but pour remporter un prix. Et parce qu'il y a un prix qui est là, ça motive et ça permet de transcender toute la fatigue, toute la douleur physique, parce qu'il y a un but, parce qu'il y a un prix. De la même manière, je vous invite à répondre à cette question. Je suis capable de supporter le présent parce que je sais qu'un jour. Et peut-être là, chacun avoir sa réponse, peut-être quelqu'un dira, parce que je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, est-ce que vous connaissez la chanson? Mais peut-être que c'est quelque chose de plus proche que cela. Peut-être quelqu'un dira, je supporte aujourd'hui les douleurs du présent, parce que je sais qu'un jour Dieu répondra à ma prière. Parce que je sais qu'un jour je serai guéri. Parce que je sais qu'un jour Dieu va me donner du travail. Parce que je sais qu'un jour, Dieu va répondre à tel et tel besoin. Dieu va bénir mon couple et toutes sortes de promesses que Dieu vous a faites. Et quand on a reçu ces promesses qui viennent de Dieu, c'est moi vous dire que ça permet de passer au travers. Je vais inviter les musiciens à venir alors que je vais conclure en disant oui, nous avons entamé un voyage spirituel. Oui, il y a tout un marathon devant nous. Et vous savez, c'est facile de partir à fond la caisse. On dit ça au Québec? Partir à fond la caisse. On va refaire toute ma vie. C'est facile de partir à fond la caisse au début du marathon. Et là, on peut impressionner du monde. Hein. Je me souviens, Luc Dumont était passé en France il y a quelques années dans notre église, puis il nous racontait que, il y a 4 ans, bon, le chiffre, hein. Et passé il y a 4 ans, il nous racontait qu'un jour, il avait fait un demi-marathon. Et puis, pour faire le demi-marathon, il avait acheté tout l'équipement, alors je ne sais pas si c'était du Nike ou de je ne sais pas quoi, il était beau, un beau coureur, puis il avait tout ce qu'il fallait pour boire et tout. Et puis, il est sur la ligne de départ, puis il voit qu'il y a une petite mamie qui est là, quand même, la petite mamie, là, faire le marathon à son âge. Enfin, il part. Il y a le départ, il commence la course. Il part vite, il part fort. Puis après, ça commence à fatiguer au bout de quelques heures, enfin quelques kilomètres. Et puis là, il voit la petite dame qui était partie tranquillement, puis qui le double. Un problème, jeune homme, puis qui continue.
Vous savez, des fois, il y en a qui partent pas vite, mais qui vont vous doubler et qui vont arriver au bout. Qu'on n'ait pas de mépris pour ceux qui partent pas vite. Et qu'on puisse nous encourager à avancer, à continuer. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ce n'est pas le tout de partir vite, tant mieux pour ceux qui partent vite, mais il faut continuer, il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout de cette épreuve. Et j'aimerais encourager ce matin, et revenir sur ce point particulièrement, faire un appel là-dessus. Mettez de côté ce qui vous empêche d'avancer. Mettez de côté ce qui, dans votre vie, vous empêche d'avancer avec Dieu, ce qui vous fait trébucher, ce qui est péché, ce qui n'est pas nécessaire. On va vous inviter à persévérer, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner. On va vous inviter à considérer les promesses de Dieu pour vous et aller jusqu'au bout. On va se lever quelques instants, on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia.